Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM Plus 91 FM.
Je suis en présence de Jonathan Doval, voyageur de la Terre, qui par passion et profession parcourt le monde et partage aujourd'hui avec nous ses voyages, ou tout du moins une partie, car la liste de ses expéditions n'a de cesse de s'agrandir. Nous partons à la rencontre d'un globe-trotteur dont les pas foulent sans bornes de nouvelles terres. Amoureux de la nature et de grands espaces, Jonathan fait partie de ces milliers d'anonymes qui parcourent le monde depuis des années. En quête de découvertes et d'aventures, des plus simples aux plus extraordinaires, ces voyages l'ont avant tout conduit à la découverte perpétuelle de son soi. Curieux sur le sens de la vie et s'appuyant sur des apprentissages philosophiques orientaux et occidentaux, Jonathan tentera de nous faire partager sa vision du voyage et du sens qui s'y rattache. À travers ces récits initiatiques les plus mémorables, nous nous envolerons vers les hauts plateaux tibétains, les cités incas du Pérou, le désert de Mauritanie, les aurores boréales de l'Alaska, les secrets du mont Saint-Michel, les lieux saints de Jérusalem, les familles de gorilles vivant au pied des volcans rwandais, les eaux arctiques de la Norvège au milieu des orques et des baleines, et bien d'autres lieux. Jonathan, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Est-ce que cette passion pour les voyages a toujours été présente chez toi ou c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure de tes allers-retours ?
Je pense que il y avait la graine qui était là, donc ça faisait effectivement partie de moi. Seulement, c'est un aspect qu'il a fallu nourrir, découvrir dans un premier temps et qui, au fur et à mesure des voyages et des destinations, qui ne sont d'ailleurs pas toutes à l'autre bout du monde. Hein. Là, effectivement, il y a une liste qui a été faite sur des voyages un peu lointains, mais même des voyages en France ou en Europe. Et tout ceci a contribué, je crois, à développer oui, cette envie de partir et de découvrir. Oui. Mmh. Donc, quelque part, oui, ça a toujours fait partie de moi. Et ça n'a fait qu'alimenter et que s'agrandir au fur et à mesure des années.
Alors justement, il y a quelques années, alors que tu vivais au Canada, tu décides de quitter ton job et ton appartement et tu pars un petit peu sur un coup de tête, sac à dos à l'épaule. Tu traverses le continent d'est en ouest pour te rendre en Alaska et tu longes la côte ouest avec pour point de chute le Costa Rica, où tu restes pendant un mois avant de rentrer en France. Quelle détermination te pousse à entreprendre un tel périple ?
Je crois que ce sont des situations qui arrivent non pas par hasard, bien au contraire. C'est-à-dire que c'est des moments dans la vie où on est un petit peu dans le brouillard, il y a des changements professionnels, des changements personnels. C'est un petit peu les carrefours de la vie. Et plutôt que de rembrayer tout de suite sur une voie un peu standard ou classique, il y avait cette nécessité à ce moment-là de prendre du temps pour moi. Alors contrairement à ce que beaucoup de gens m'ont dit à l'époque, non, j'avais pas de questions plein la tête et je partais pas avec un questionnement et dans le but de répondre à certaines interrogations. C'est pas ça du tout. Je suis parti car j'en ressentais l'envie, tout simplement. Au cours de ma vie, ce sont des choses que j'avais déjà eu envie de faire, effectivement, de partir comme ça à l'aventure un petit peu tout seul plusieurs mois. Et soit j'étais pas prêt, soit c'était pas le moment, en tout cas j'avais repoussé et je me suis à nouveau retrouvé dans cette situation-là. Et donc là cette fois j'ai pas hésité, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc effectivement je suis parti plusieurs mois en sac à dos.
Et t'avais rien prévu, c'était pas...
J'avais prévu les grandes lignes. Disons que prévoir un voyage sur 15 jours, 3 semaines, c'est faisable. Sur plusieurs mois, voilà, disons qu'il y a des pistes.
Mais parce que là, tu es parti au moins 4 mois, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais.
À peu près.
Mais donc, j'avais des axes. Et puis ensuite, il faut aussi laisser libre cours aux rencontres, aux attraits du lieu. C'est-à-dire que moi, les États-Unis, oui, je connaissais, bien sûr, mais la côte ouest américaine, canadienne, un petit peu. Mais ensuite, par exemple, l'Alaska. Pourquoi, même aujourd'hui, je serais incapable de dire pourquoi ça m'attirait. Et pourtant, ça reste l'un des endroits les plus magnifiques au monde. En tout cas, l'endroit qui m'a peut-être le plus touché. Mais encore une fois, je pense que certes, il y a l'aspect nature, il y a l'aspect les expériences que j'ai vécues, mais il y a aussi le moment auquel je suis parti et qui correspond pleinement à ce que j'avais besoin de vivre et découvrir. Donc ces facteurs combinés ont fait que ça reste, voilà, l'Alaska pour moi reste une terre exceptionnelle, vraiment de découverte de soi.
Donc ça a vraiment été l'opportunité pour toi, c'était vraiment le bon timing en fait pour faire cette expérience. Et alors du coup, tu es parti, tu as fait du stop, je crois, pour traverser
Oui.
d'est en ouest. Tu as beaucoup vadrouillé à pied aussi quand tu étais en Alaska. Et il y a un moment où tu as pris l'avion quand même pour descendre jusqu'au Costa Rica, par exemple, parce que 4 mois,
Oui,
finalement,
j'ai.
quand on est à pied, ça, c'est un peu court, peut-être.
Ouais, alors j'ai pas tout fait non plus à pied, mais c'est vrai que la première partie du voyage s'est fait d'abord avec des covoyageurs en voiture, et ensuite je me suis retrouvé seul, enfin, je me suis retrouvé seul par choix, et là, oui, j'ai beaucoup voyagé en stop, puis en bus, et en Alaska, j'étais qu'en stop tout le temps. Après, j'ai pris un avion parce qu'en fait, en Alaska, je me suis rendu jusqu'à l'océan Arctique, donc une petite ville tout au nord qui s'appelle Dédors. Et de là, donc en fait, il y avait déjà 800 km pour monter, donc ça m'a pris quelques jours quand même en stop. Et il a fallu, pour redescendre vers le sud, eh bien, c'était soit refaire le chemin inverse en stop, chose qui était particulièrement longue. Et ou alors prendre un avion, et c'est ce que j'ai fait. Il y avait un tout petit aéroport qui permet aux gens qui travaillent sur les stations pétrolières dans l'océan Arctique de regagner le sud de l'Alaska, notamment Fairbanks, par avion. Et voilà, c'est l'option. Et après, de là, effectivement, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, notamment à San Francisco, j'ai pris un vol pour San José au Costa Rica. C'est
D'accord.
les deux
D'accord.
avions
Donc,
que j'ai pris.
quand tu as longé la côte ouest, tu es passé par San Francisco directement.
Oui,
Tu es redescendu
c'est ça.
direct sur San Francisco.
De le sud de l'Alaska, de Juneau, j'ai pris un ferry pendant 3 jours pour redescendre sur la côte ouest américaine, au nord de Seattle. Et de là, j'ai continué mon périple vers le sud.
Alors, est-ce que selon toi, il faut avoir un profil d'aventurier pour entreprendre des voyages de ce type?
Non, je pense pas, en fait. Je crois que le voyage permet de se découvrir. À 20 ans, bon là, moi, à cette époque-là, ce voyage-là, par exemple, de plusieurs mois, je l'ai fait, j'avais 30 ans. Mais je pense, il est nécessaire d'avoir une envie, d'être à l'écoute de soi. Ça, c'est certain. Si on n'en ressent pas l'envie ou le besoin de partir, peut-être que de passer 8 jours dans ce cas-là, dans la jungle, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Pour autant, pour moi, le voyage est un véritable outil de découverte de soi. Et donc, enfin, par définition, on apprend sur soi, on se découvre à travers ces expériences-là. Donc, je crois que le profil se dessine au fur et à mesure des expériences vécues et des voyages effectués. C'est-à-dire que aller faire un voyage au Costa Rica en famille ou avec des amis ou tout seul ou en sac à dos, c'est encore à chaque fois ça va être une expérience différente dans laquelle on va apprendre autre chose sur les autres, sur soi et également sur le pays. Donc je pense que c'est quelque chose, encore une fois, qui vient petit à petit, même si pour certaines personnes, c'est sûr que j'ai envie de dire, le terrain intérieur s'y prête à être plus dans ce profil un peu aventurier ou découverte du monde.
Alors souvent, quand on est en découverte de soi, même si ça se fait de manière spontanée, on est souvent mis face à ses peurs, à des peurs profondes. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Est-ce que tu as eu justement des émanations comme ça de, de peurs enfouies qui auraient refait surface à travers ces voyages?
Eh bien, étrangement, non, en tout cas pas consciemment. Non pas que j'ai peur de rien, loin de là. mais par contre, j'ai remarqué quelque chose d'assez fascinant et d'intéressant. C'est, comme j'expliquais, je suis parti sans avoir de questionnement. Et j'ai marché donc beaucoup à travers notamment ces mois-là, mais également à travers d'autres voyages qui étaient plus courts. Et la chose que j'ai remarqué, c'est de part, notamment pour moi, la marche, il y a une sorte de processus qui s'est mis en route et dans laquelle des choses émergeaient de moi-même. C'est-à-dire que j'ai commencé, sans que ça soit conscientisé, sans que ça soit vraiment réfléchi, mais j'ai commencé à m'observer en tant que qu'individu, vraiment mes forces, mes faiblesses. Donc toutes ces choses-là ont commencé à apparaître. Ensuite, j'ai commencé à poursuivre cette observation au niveau de ma place au sein du couple. Puis cette observation a continué au niveau de ma famille, quelle place j'ai au sein de la famille, quel rôle je peux jouer, puis au niveau de la société. Et en fait, c'est comme s'il y avait une graduation et une évolution qui n'était pas contrôlée du tout. Et voilà. Et ça, c'était particulièrement intéressant d'observer ce mécanisme. Après, de là à dire qu'il y ait des peurs vraiment qui ont émergé, oui, bien sûr que il y a toujours une peut-être appréhension de partir vers l'inconnu ou de partir seul. Voilà. Mais en tout cas, chez moi, c'est pas quelque chose qui m'a sclérosé. Quoi.
C'est pas quelque chose qui s'est vraiment mis en avant sur ton tableau et qui t'a empêché de continuer ton voyage ou...
Pas du tout. Après, se retrouver face à face avec un ours, oui, on peut pas dire que ça soit les choses les plus rassurantes.
On sait pas.
mais intérieurement, non, j'ai pas eu de peur qui m'ont empêché d'avancer. Non.
Alors, tu as choisi de nous faire écouter une musique traditionnelle norvégienne, Hardufirv.
Excellente prononciation.
Excellente prononciation, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cette mélodie?
Parce que c'est une musique que j'ai découverte notamment récemment, l'année dernière, suite à un voyage en Norvège. Et qui me touche beaucoup, parce que ce voyage en Norvège, justement, a été l'une des plus belles expériences jusqu'à maintenant. Et me demande pas la traduction, je ne saurais pas.
Je n'ai pas regardé la traduction, j'avoue.
Mais je crois savoir que c'est en relation avec quelqu'un qui s'en va et qui revient.
D'accord.
Voilà, il y a l'aspect du voyage derrière ça.
Très bien, on écoute ça tout de suite.
Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går der i rute. Uansett trenger du et punkt som fast. Der du frakter din skjøre last. Det nok at det står der og brenner. En trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Herre, han sa det da jorda vart til. La det bli lys, og det ble det. Så sette han sol og måne og stjerne opp sånn at vi kunne se det. Men de som han glemte i skapningens skry, var alle de som er dømt til å fly. På havet i vær og vind, forskodde og mørke satt inn. Har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket, og som loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm. Helst skulle vi la det bemanne der skarven flyg og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad, og roper så sjøen skvett. Jeg vil. Har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket, og som loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også
Il y a quelques mois, tu es parti nager avec les orques et les baleines en Norvège. Je crois savoir que tu as une sensibilité très prononcée pour ces animaux marins. Comment as-tu vécu cette rencontre ?
Alors là, j'avoue que c'était jusqu'à maintenant la chose certainement la plus extraordinaire que j'ai pu vivre. C'est vrai que j'ai une sensibilité particulière pour la nature en général, les animaux en particulier, et peut-être un peu plus les baleines. Et donc ce voyage est arrivé un peu par hasard, si tant est qu'il y ait du hasard, et je me suis retrouvé donc à plonger effectivement pendant à partir au nord de la Norvège pendant sur une période bien particulière où il y a une forte migration de harengs, c'est ce qui amène donc tous ces centaines d'orques et de baleines. Et donc je me suis retrouvé à me retrouver en palme, masque, tuba et une combinaison permettant de supporter l'eau à 5 degrés au milieu des orques et des baleines. Et là sur l'instant, je réalisais que, oui, j'en prenais plein les yeux, je réalisais que c'était extraordinaire, mais intérieurement, j'étais surpris de ne pas avoir, j'ai envie de dire, un choc, enfin, quelque chose de, qui me touche plus profondément. Et c'est vraiment uniquement au retour du voyage, où là, en fait, il y a eu écho de ce que j'ai vécu. Et ce qui en est ressorti, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans certains bouquins de philosophie ou bouquins de méditation ou autre. Mais ce qui en est ressorti, c'était que, une fois retourné à ma vie normale, tous les désagréments, toutes les choses négatives n'avaient plus aucune emprise sur moi. C'est-à-dire que les choses glissaient sans m'atteindre et j'étais dans une émotion, enfin une sensation de joie, mais de joie profonde. C'est-à-dire non pas que je rigolais bêtement sur chaque chose de la vie, mais j'étais joie, dans un état de bien-être, posé, ancré, et c'est des vécus, des sensations qu'on retrouve notamment, enfin apparemment en tout cas, en méditation, des choses comme ça. Et de par cette expérience-là, Je suis arrivé à ressentir cet événement. Alors, je dis pas qu'il faut nécessairement partir et aller
Oui, bien sûr. Ça,
mettre
après,
les
ça fait
fesses dans
partie
l'eau froide.
toi de ton expérience.
Voilà, c'est ça. En tout cas, ce qui en est ressorti, peut-être dû à ma sensibilité, peut-être dû à certaines choses, mais c'est ce contact si fort avec un orque, hein, donc qui fait à peu près 8 mètres de long et qui se trouve à quelques mètres en l'occurrence de moi, et dont on sent le regard vraiment se poser. On peut les entendre sous l'eau parce que là c'était quand même, il y avait des dizaines et dizaines d'orques nageant autour de moi, plus des baleines à bosse qui venaient aussi. Et c'est quelque chose, non, qui m'a tellement touché dans mon cœur que je crois que ça a permis de faire naître non plus cet état de bien-être, mais un état encore plus puissant qui est est-ce que qui est la joie, et sur lequel en fait j'ai pu mettre des mots à travers des lectures, notamment des lectures qui expliquaient ce qu'était vraiment la joie. Et là, en plus, sur lesquelles j'ai pu lire après le retour de Norvège, et sur lesquelles je me suis dit, mais c'est exactement ce que je ressens. Donc, ça m'a vraiment permis de comprendre et de mettre des mots sur ce que je vivais.
Et toute cet état, il s'est révélé vraiment en rentrant, ou c'est quelque chose qui est arrivé en fait lors d'une plongée, vraiment où tu t'es retrouvé face à un animal. Il y a eu un moment clé, si tu veux, où c'est vraiment le résultat, l'aboutissement de ce voyage qui a fait que, boum, en rentrant, il y a une
Non,
espèce de tranquillité.
je suis incapable de dire quel a été, s'il y a eu un. Non, enfin, c'est sûr en tout cas, c'est qu'il n'y a pas eu de déclic. Il y a eu des choses extraordinaires qui ont été vécues avec les orques et les baleines, comme des orques qui surgissent, enfin une baleine qui surgit de l'eau et qui vient poser sa queue sur le zodiaque en replongeant. Enfin, c'était complètement dingue. Mais il n'y a pas eu d'événements qui ont provoqué un déclic chez moi. Je crois que. Voilà, les choses ont été accueillies. Je les ai acceptées, intégrées. Lors de mon retour à Paris, oui, parce qu'en plus j'habite Paris, donc ça n'aide pas, peut-être.
Ouais, non,
Ou au
c'est sûr,
contraire,
quand
ça aide,
t'arrives
je
dans
sais
le
pas.
RERB, il y a
Mais
petite transition.
c'est à ce moment-là où là, je me suis rendu compte de l'impact qu'avait eu cette rencontre. Car effectivement, n'importe, enfin, y a des gens qui ont une vie bouleversée ou qui vont changer leur orientation de vie de par une rencontre humaine. Moi, je sais que cette rencontre animale m'a profondément touché.
C'est alors, je dirais, c'est donc j'imagine c'est l'expérience qui t'a le plus touché dans tous les voyages que tu as fait, ou j'imagine qu'après ils sont tous différents, hein, mais c'est celle qui t'a le plus bouleversé.
Aussi profondément et qui dure autant dans le temps, oui, je crois. Après, encore une fois, il y a eu d'autres expériences à travers les voyages qui m'ont soit réorienté, soit changé certaines habitudes que j'avais, soit certaines croyances que je pensais acquises. Donc voilà, donc peut-être que là encore, peut-être que tout a un sens en fait et qu'il faut pas voir la chose
Individuellement.
isolé, mais prendre l'ensemble. J'ai vécu des choses lors d'un trek en Mauritanie où je marchais dans le désert, donc, et qui ont changé beaucoup de choses aussi dans ma vie, ou des rencontres au Tibet, je vois aussi, ou même en Écosse, des expériences en Écosse. Voilà. Maintenant, ce qui est certain, oui, c'est que le retour et la rencontre avec les orques et les baleines dans leur environnement, sentir leurs vocalises, les ressentir physiquement. Enfin, une baleine, ça fait quand même 25 tonnes, hein, donc quand elle chante et qu'on est juste en face et on se prend les vibrations dans le corps. Bon, bah, théoriquement, ça remue quand même un peu, quoi, hein. Et donc là, oui, il y a eu un impact Et en plus, j'ai pas été le seul. On était un petit groupe. Tout le monde a été touché par ces rencontres-là, à différents degrés, différentes échelles. Mais en tout cas, chez moi, oui, ça a été très fort. Oui.
Donc voilà, vraiment, quand tu parles de finalement ce que on l'énumère, hein, dans ta biographie, quand tu parles de découverte perpétuelle de ton soi, c'est vraiment ça en fait. Que à chaque voyage, ou chaque expérience, il y a quelque chose qui a fait comme un boom en fait en toi, et qui t'a amené à une clairvoyance sur ta personnalité, sur ta vie, sur la personne que tu incarnes, enfin...
Complètement, complètement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme je le disais, pour moi, le voyage est un véritable outil de développement personnel, de découverte de soi. Et à chaque fois, on aurait presque tendance à se dire « Bon, bah voilà, j'ai fait le tour. » Et puis, en fait, bah non, pas du tout.
Ouais.
Et donc voilà, après, ce n'est pas non plus le but de mon voyage. C'est-à-dire que je ne pars pas à chaque fois en me disant « Bon, là, qu'est-ce que je vais découvrir sur moi ?» Non, une fois de plus, hein, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a un véritable lâcher-prise. C'est-à-dire que je pars parce que j'ai des intérêts autres, liés à la nature, liés à la découverte des gens ou les animaux. Et en parallèle de ça, je reste attentif à ce qui se passe, ce qui se passe en moi et les changements que ça produit. Donc voilà.
Alors de ces expériences, on est aussi ressorti en fait une envie de partage, puisque depuis 2017, tu emmènes des petits groupes de personnes à voyager avec toi. Ce sont des séjours insolites où on sort des sentiers battus hein, et donc des circuits classiquement proposés pour se retrouver dans des endroits, je dirais, perdus hors du temps. Comment se déroule l'organisation de ces voyages? Comment tu rencontres les gens? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, alors effectivement, j'ai organisé quelques voyages. Le premier était en Islande pendant la période hivernale. Donc j'étais parti avec un groupe. Là, il y avait 7 personnes. Et plus récemment, au mois de mai dernier, au Vietnam, avec 4 autres personnes. Donc généralement, c'est des petits groupes. Hein. Et effectivement, encore une fois, on essaye de sortir, en tout cas, du circuit très classique, même s'il y a des choses qui restent incontournables. Et notamment, là, pour le Vietnam, j'ai réussi à rentrer en contact avec un organisme sur lequel on pouvait effectuer des treks assez courts, mais avec des ethnies locales vivant dans les montagnes du nord vietnamien. Donc on marche à travers les rizières et on vit avec cette communauté, cette ethnie donc, qui s'appelle les Hmong. Donc on vit vraiment, on est imprégné de leur vie, de leur culture, on cuisine avec eux, on vit chez eux. Donc c'est des choses sur lesquelles effectivement j'y attache une assez grande importance. Parce qu'encore une fois, pour beaucoup de gens en tout cas, c'est difficile de communiquer avec un orque ou un gorille. Mais l'échange humain est aussi important. Et avec ces gens-là qui ont gardé une authenticité, il y a énormément de choses à apprendre sur leur quotidien et à apprendre sur notre vie et nos modes de vie. Donc toute l'organisation en elle-même, oui, évidemment, c'est du travail.
Donc c'est toi qui organises tout.
Oui, hein. C'est moi qui organise tout. Mais encore une fois, là, je ne suis ni une agence, ni un guide. Moi, en fait, c'est des voyages que je veux faire. Et généralement, une fois par an, ou voire deux, ça dépend. Je propose à des gens de m'accompagner dans cette prochaine aventure. Voilà. Donc, mais je gagne pas d'argent dessus. Hein. C'est pas mon activité. Et pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que quand je vois ce que les voyages m'ont apporté et ce qu'ils continuent de m'apporter, la richesse et l'ouverture d'esprit qu'il m'apporte, je me dis que ça serait tellement égoïste de garder ça pour soi et de rayonner juste les quelques gens que je peux connaître. Donc je me dis que c'est, à mon avis, c'est important et c'est nécessaire peut-être à ce que certaines personnes puissent partir et vivre aussi des expériences comme ça. Et après, chacun en tirera ce qu'il a en tiré, bien sûr. Donc étant donné que c'est organisé par moi-même, hein, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher que sur une agence de voyage. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, tout le monde a été, tout le monde est revenu déjà, c'est une bonne chose. Et tout le monde a été très très emballé. Et on me demande souvent quelle est la prochaine destination. Donc voilà.
Alors pour retrouver tes prochains voyages justement, tes actualités ou même simplement prendre des renseignements, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Donc ton lien Facebook en fait, on te retrouve, c'est Jonathan DVL, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Et sur Instagram, c'est John, donc John.explore.
Oui, avec un S.
Avec un S. Ouais. Où on retrouve d'ailleurs de superbes clichés. Hein. Je vous invite vivement à aller y jeter un coup d'œil. C'est tout, il n'y a pas d'autres...
Non. Facebook, cas, Instagram. À l'heure actuelle, c'est tout.
À l'heure actuelle, c'est tout. Donc voilà, Facebook, Jonathan DVL ou Instagram, johnjon.explorer avec un S. Donc Jonathan, merci pour ce partage d'expérience. On te souhaite en tout cas une belle continuité dans la traversée de la Terre et de ton être aussi au passage. On ne manque pas de suivre tes traces via les réseaux sociaux et donc notamment sur Instagram. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura inspiré pour l'été, voire de voyager autrement pour vos prochains road trips. Et c'est la fin de notre saison aussi radiophonique. Donc vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de la radio, www.radiofmplus.org, ou encore sur mon profil Instagram Tree Home Yoga. Et je vous retrouve en septembre 2019 pour de nouvelles aventures en conscience, cela va de soi.
Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM+, 91 FM.